France Culture, il est 8 heures. Les chemins de la connaissance. En première partie, les civilisations de l'écriture par Jacques. Aujourd'hui, cinquième, des contresens faits par l'épigraphiste au sujet du fallacieux passage de la capitale à la minuscule, avec Jean Malou.
La partition qui sert de générique à cette série d'émissions sur les civilisations de l'écriture est extraite des trois leçons des ténèbres de François Couperin. Voici à ce sujet quelques précisions. Chacune des leçons est composée de 22 groupes de vers destinés à illustrer la lamentation du prophète Jérémie. Dans la version primitive, la lettre initiale de chaque groupe suivait l'ordre que celui-ci se trouvait reconstitué lorsque les strophes étaient reliées en acrostiche, particularité que n'ont pu conserver les traductions grecques et latines. Pourtant, dans un louable désir de maintenir la tradition, la Bible latine a fait précéder chaque verset de la lettre hébraïque qui, dans la version première, lui servait d'incipit. Nous aurons donc ici une alternance continuelle entre les lettres de l'alphabet hébreu qui se développe tout au long des trois leçons. Première leçon, Alep, Beth, Gimel, Daleth, He. Deuxième leçon, Van, Zain, Het. Jod, Kaf, Lamed, Men, Nun, et les versets latins. Pour être complet, ajoutons que si la première leçon ouvre par l'intitulé du triptyque, incipit, Lamento, Jérémie, prophété, les trois leçons trouvent une conclusion identique dans le répond, Jérusalem, Jérusalem, convertere ad dominum deum tuum. Monsieur Malon, lors de notre dernier entretien, je vous citais un article que vous aviez écrit dans Arts et Métiers Graphiques, il y a plusieurs années, 20 ans, 30 ans.
40 ans.
40 ans. Et, au fond, vous n'étiez pas content que j'ai cité cet article. Il s'agissait de la filiation des alphabets à partir de la capitale romaine. Et je disais, et vous disiez, que tout découlait, toutes ces écritures nationales, la bénéventine, la mérovingienne, et les cursives en nombre serré, étaient issues de la capitale romaine. Alors, en quoi, finalement, vos idées ont changé sur ce point depuis cet article d'Arts et Métiers Graphiques ?
Cet article, donc, quand j'ai fait cet article, j'étais encore sous l'Empire, comme je crois vous l'avoir déjà dit hier, j'étais sous l'empire de doctrines que j'oserais qualifier d'officielles et que je ne m'étais pas encore rendu compte de ce que cette paternité de la capitale était une chose absolument impossible à accepter.
Alors, est-ce que vous pouvez nous essayer pour nos auditeurs,
c'est pas comme alors, moi, voilà, essayer, c'est terrible, parce que depuis le début de ces entretiens, nous heurtons à la difficulté d'être à la radio, oui, de ne pouvoir rien montrer, que nous traitons de sujets qui sont essentiellement visuels et qu'il faudrait un écran ou au moins un tableau noir et de la craie pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Alors, expliquer ça par des mots à des auditeurs qui ne voient rien, c'est une chose extrêmement difficile.
Mais enfin, puisque nous sommes là, tout de même, nous allons le tenter. Alors, vous contestez votre propos d'il y a 40 ans, sur ce point-là?
C'est que on a trouvé en Égypte un tout petit fragment de parchemin qu'on a d'abord daté du 3e siècle parce qu'on lui a appliqué des critères qui avaient été fondés sur des monuments postérieurs. Ce petit fragment de parchemin était le pauvre débris d'un codex latin dont je crois avoir pu démontrer, et tout le monde est absolument d'accord avec moi là-dessus, qu'il est en réalité de la fin du 1er siècle. Il est donc du premier âge des codices latins. Le codex n'apparaît qu'au 1er siècle. Et ce petit fragment est écrit de telle sorte que, quand j'ai voulu l'imiter pour m'amuser, ou faire un faux en écrivant comme lui, je me suis trouvé à déplacer par hasard ma feuille de papier au cours d'une conversation téléphonique qui avait interrompu mon travail, et que quand j'ai eu raccroché le téléphone, ça m'est arrivé ça en 1939, bien après l'article, j'ai continué mon travail et je me suis aperçu qu'inconsciemment j'avais déplacé l'orientation.
Permettez-moi, je vous interromps pour vous rendre la parole, car je vais lire, si vous voulez bien, ce texte qui figure dans votre volumineuse étude et qui est, je crois, très, 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 très significatif et très important. Tout d'abord, je dois signaler, écriviez-vous, que c'est une circonstance tout à fait fortuite qui m'a fait apercevoir le phénomène que j'ai appelé en 1939, pour lui donner un nom, l'inclinaison du papier. Conformément à l'habitude que j'ai prise de m'exercer à imiter des écritures pour essayer de me rendre compte de la manière dont elles étaient tracées, je m'appliquais un jour à Paris, en 1938, à contrefaire l'écriture du débilis avec une bonne grosse plume de fer. Tout à fait inconsciemment, j'avais, pour produire les pleins, là où il fallait, placer ma feuille droit devant moi. J'en étais au premier P de Philibus, quand la sonnerie du téléphone interrompit ma tâche. Après avoir parlé, je continuais mon travail et la plume, sans que mon esprit fût complètement libéré de la conversation que je venais d'avoir. Ce fut très mécaniquement et distrait de mon modèle que je formais H, puis I, puis L, puis I. À ce moment, un fait s'imposa à mon attention et la ramena définitivement à mon exercice. Le groupe ILI, que je venais de tracer, n'était plus conforme à l'écriture du débilis. Il avait un aspect tout autre que j'avais vu ailleurs exactement dans l'épitomée. Je pris alors conscience de ce que le téléphone raccroché, un réflexe avait, à la reprise de mon travail, ramené ma feuille dans la position inclinée vers la gauche où nous la mettons naturellement aujourd'hui pour écrire. Les pleins de Illy n'étaient pas à la même place que sur le modèle, la forme même du H s'était modifiée, quand, gardant la feuille dans la même position inclinée, je voulais écrire le P qui venait après Illy, je m'aperçus que l'empattement avait perdu toute raison d'être, que le dernier trait reprenait sa forme ronde, etc. Et il fut facile d'étendre les mêmes constatations à tout l'alphabet. Un rapport graphique précis se trouvait ainsi établi entre deux monuments déterminés dont il ne s'agissait plus de savoir comment on les avait placés et baptisés dans la paléographie traditionnelle, ni comment on les appellerait maintenant. Il n'y avait aucune presse à donner à ces écritures d'autres noms que ceux d'écriture de l'épitomée et d'écriture du débilis. En outre, ce n'était pas à proprement parler moi qui avais réalisé l'inclinaison du papier entre ces deux exemples, c'était ma main. Abandonnée à elle-même dans un moment de distraction sur une feuille qui avait changé par mégarde de position, il ne s'agissait pas d'une vue de mon esprit, et je trouvais dans cette circonstance une garantie que des recherches ultérieures ne paraissaient pas avoir dévalorisé. Alors,
Alors, ça très beau, ce petit point-là, parce qu'on en revient à l'écriture manuelle.
Là. C'est ça. Hein? C'est ça. Voilà. Alors, le premier exemple que j'imitais est donc un débris de codex du 1er siècle, en parchemin, et le second exemple auquel je suis arrivé inconsciemment, après avoir raccroché mon téléphone et déplacé également inconsciemment ma feuille de papier, c'est l'épitomée de Tite-Live. L'épitomée de Tite-Live est un rouleau de papyrus qui est conservé au British Museum, et je lui ai attribué, à partir de ce moment-là, une importance considérable. J'en ai fait l'écriture de base de toutes les écritures latines après le IIIe siècle.
Tout ça pour
l'écriture
téléphone.
Fondamentale. Et en effet, ça, graphiquement, ça se vérifiait très bien. Il y avait une chose très ennuyeuse, et qui m'ennuyait beaucoup à cette époque-là, c'est que, quelque rare que soient les débris de livres de latin qui nous soient parvenus pour ces hautes époques, l'épitomée était le seul exemple, l'épitomée auquel j'assignais un rôle si important, était le seul exemple parfait de cette écriture que les autres écritures de livres dont on avait des débris n'étaient pas absolument superposables. Alors, c'était peut-être un peu gênant, c'était pas une objection très valable, étant donné, encore une fois, que nous n'avons que de pauvres débris. Mais c'est tout de même un peu gênant qu'il ne soit jamais apparu un autre exemple de cette même écriture que je qualifiais au IIIe siècle d'absolument fondamentale et que je disais avoir été employée absolument généralement dans tout le monde romain.
Mais d'ailleurs, tout le monde vous a suivi dans votre...
Mais alors, moi, j'étais un peu gêné. Je disais, enfin, comment ça se fait qu'on est absolument... On a d'autres manuscrits du troisième, d'autres débris de manuscrits du IIIe siècle qui ressemblent beaucoup. Mais on n'a jamais rien qui soit parfaitement l'épitomé, qui puisse vraiment être le témoignage d'une école absolument uniforme et d'une discipline parfaite.
Alors ça vous a tracassé.
Et en 1954, je me trouvais à Alger, et mon ami Gilbert Picard est venu à ce moment-là à Alger, ayant dans sa serviette la photo d'une inscription que l'on venait de découvrir à Maktar en Tunisie, qui était une inscription métrique. La tombe d'une pauvre jeune femme qui était morte à 18 ans, enfin, quelque chose comme ça. Et il y avait une quinzaine de vers qui étaient gravés sur la pierre, exactement comme était écrit sur le parchemin, sur le papyrus, le texte de Tite-Live. C'était donc le deuxième exemple qui me manquait pour que ma démonstration fût complète.
Oui.
À partir du moment où on en a deux, dans des époques où on n'a pratiquement presque rien, n'est-ce pas ? Évidemment, c'était providentiel et magnifique pour moi.
Bon.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'était passé ? C'est que ce que j'ai appelé l'ordinateur de l'inscription de Maktar en Tunisie, c'est-à-dire l'ouvrier qui, avant de graver, a dessiné sur la pierre les lettres de l'épithalame de Bekut, car la jeune femme s'appelle Bekut, n'est-ce pas, a écrit et écrivait exactement comme le scribe de l'épitomée de Tite-Live conservé à Londres et trouvé à Oxyrhynchus en Égypte, n'est-ce pas, au point que les groupes de lettres sont absolument superposables dans leurs plus infimes inflexions, leur graisse, les détails les plus minimes, c'est exactement la même chose.
Bon, alors maintenant, pouvez-vous nous expliquer en quoi, et c'est en quoi, personnellement, je vous rends hommage, c'est que par la suite, c'est vous-même qui avez contrôlé votre découverte, ou plutôt qui avez estimé qu'on avait fait à votre découverte
votre affaire de téléphone, un sort par trop important. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
C'est-à-dire qu'on a voulu le changement d'angle d'écriture est un phénomène qui s'observe à ce moment-là, entre le 1er et le 3e siècle.
C'est ça.
Il y a un changement d'angle d'écriture. Ça, c'est sûr. C'est évident.
Petite parenthèse.
Mais alors, la raison... Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui a amené ce changement d'angle ? C'est extrêmement difficile à dire.
Ah, voilà. Et c'était sur quel support ? Parce que est-ce que ce support était maniable aussi facilement que la feuille de pot de papier
alors,
que vous aviez ?
Sur ce changement d'angle, j'ai fait, dans les derniers jours avant la guerre, j'ai fait dans un métier graphique un article là-dessus pour expliquer ce changement d'angle. Et pour lui donner un nom... Je l'ai appelé l'inclinaison du papier, n'est-ce pas ? Mais à titre de pure hypothèse, parce que c'était comme ça que c'était arrivé dans mon cas. Mais ça pouvait arriver de toutes sortes d'autres manières. Ça pouvait arriver pour la tenue de l'instrument. Ça pouvait arriver, et puis l'inclinaison du papier elle-même pouvait avoir été opérée par le passage du codex au volumen. C'était extrêmement séduisant. C'est une hypothèse que j'ai formulée, mais comme une hypothèse.
Ah, voilà.
Une hypothèse tout à fait de travail.
Alors, qu'est-ce qui vous a...
Une hypothèse de travail. Et alors, c'était une hypothèse très séduisante, parce qu'il est évident que, quand vous écrivez sur un rouleau, il est très difficile d'incliner votre papier.
Voilà.
Alors que quand vous écrivez sur les cahiers d'un codex, les cahiers de parchemin d'un codex, c'est très mobile, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a un ennui. Il y a un ennui. C'est que le Vébélis qui est écrit sur papier droit est un codex.
Sur papier droit,
dites-moi. Oui, sur papier droit, comme ça, est un codex. Et que l'épitomé qui est écrit sur papier dit incliné est un rouleau.
Ah, voilà. C'est l'affaire du rouleau.
Alors, les deux seuls cas qu'on a, les deux seuls exemples qui sont tellement frappants vont à l'encontre, c'est tout de même un peu embêtant. C'est tout de même un peu embêtant. Et alors, ma pauvre hypothèse du passage du codex au volumen, qui était tellement séduisante, qu'elle a fait florès, et vous trouvez des tas d'ouvrages où on répète que j'ai formulé ça, non pas comme une hypothèse, mais comme une chose dont j'étais sûr, et je n'en suis pas sûr du tout. On peut aussi bien imaginer le changement de tenue de l'instrument.
Mais aujourd'hui, au point où en sont vos études, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Il y a des choses très frappantes. Le scribe accroupi, enfin les écritures très antiques, nous montre un monsieur qui semble bien écrire sur ses genoux et sur un papier qui est perpendiculaire à
l'ensemble de son corps,
son torse. Oui. Alors qu'au contraire, l'évangéliste qui écrit beaucoup plus tard, au XIe siècle, qui écrit, peut très bien l'avoir écrit sur le papier incliné, mais enfin, tout ça sur un pupitre. Mais tout ça, c'est extrêmement conjectural. En réalité, on observe brutalement un phénomène. Quelles en sont les causes ? Pour le moment, je suis incapable de le dire.
Cette découverte de Genève. Alors, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste cette surprise ?
Oui, alors, la première surprise qui a succédé à la sortie de mon traité, la première surprise avait été provoquée par la découverte d'une inscription trouvée dans des fouilles en Tunisie à Maktar. La seconde surprise, a été la rencontre que j'ai faite d'un papyrus dans l'ombre d'une bibliothèque où ce papyrus était depuis le début du XVIIIe siècle et qui avait été assez mal lu. Il avait été mal lu surtout en ce qui concerne sa première ligne, c'est un fragment de papyrus, il n'y a que le milieu d'un long papyrus très large. Et
ça se passe à Genève, n'est-ce pas ?
Ça se passe à Genève, oui. Et dans une vitrine très obscure, qui était à côté d'une salle où on avait fait une exposition magnifique des papyrus de Nicole, ramenés à Genève et qui provenaient d'Égypte, il y avait un peu comme parents pauvres un certain nombre de manuscrits du Moyen-Âge, mais la salle n'était pas éclairée.
À quelle époque ça s'est passé ?
En 1952. Mmh. Immédiatement, le livre était déjà sorti. Et j'aperçois quelque chose dans l'ombre qui avait vaguement l'allure d'un papyrus. Je regarde et je m'aperçois que c'était un fragment de papyrus qui ressemblait terriblement au diplôme mérovingien, au diplôme des rois mérovingiens que nous conservons à Paris aux Archives nationales, qui a fait l'objet de la grande publication de M. Samaran en 1907. Que la première ligne se terminait par le mot « comes sacris tabuli », où on avait lu « comissam », ce qui n'avait aucun sens, et qu'en réalité nous avions affaire à un acte original d'un grand dignitaire du Bas-Empire romain. Et puis il y avait en bas des signes de validation, « bénévalé » et tout ce qu'on peut imaginer.
De là à établir une filiation.
Alors, j'avais soutenu
dans les écritures,
j'avais soutenu que l'écriture des diplômes mérovingiens, maintenant c'est une chose absolument admise et qui court les rues, mais dans le manuel diplomatique d'Arthur Géry, par exemple, on vous dit textuellement que l'écriture des rois mérovingiens est un héritage de l'écriture de la chancellerie impériale romaine. Et moi, j'avais soutenu qu'au contraire, l'écriture des diplômes des rois mérovingiens, l'écriture des diplômes des rois barbares, les rois mérovingiens sont les seuls dont nous ayons des diplômes, mais il y a eu des diplômes parallèles, wisigothiques, etc. Et ailleurs, dans les royaumes barbares qui ont succédé à l'Empire romain, alors que moi, j'avais soutenu
les diplômes.
Que ces diplômes barbares
oui.
n'étaient que la suite des chancelleries des hauts fonctionnaires provinciaux romains, que les rois barbares étant arrivés, les mêmes bureaux qui travaillaient pour la haute administration romaine s'étaient mis à travailler pour le roi barbare.
Ça paraissait tout à fait logique comme...
Oui. Et alors, le papyrus Butini nous donnait le seul exemple connu d'un diplôme original émané de la chancellerie d'un grand dignitaire du Bas-Empire, et c'est exactement l'ancêtre des diplômes mérovingiens, et par la mise en page, et par l'écriture, et par le formulaire, et par toutes les caractéristiques internes et surtout externes.
Voilà.
Alors ça, c'était vraiment très heureux, oui. parce que j'avais soutenu ma thèse uniquement en m'appuyant sur un pauvre petit fragment qui est conservé à Vienne, qui provient de la collection de papyrus de l'archiduc Rainer. Et ce morceau de papyrus, j'avais soutenu que c'était le débris d'une copie faite à la préfecture d'Égypte d'un rescrit impérial, copie qui avait été faite pour être envoyée aux subordonnés du préfet d'Égypte.
Bon, alors cette... sa découverte de ce papyrus, là, n'a pas eu la fortune mauvaise de l'affaire précédente.
Parce
là, tout le monde vous est...
Ça n'était pas de l'épigraphie, alors maintenant tout le monde connaît ce papyrus.
On a sur cette... ouais.
Bon, mais alors... je tiens pas à ce qu'on rend hommage, mais je tiens à ce qu'on rend hommage au papyrus Butini,
oui,
n'est-ce pas, qui est une aubaine extraordinaire.
Et alors, si vous voulez bien, nous allons consacrer le dernier instant qui nous reste à parler des écritures de chancellerie, et si vous voulez, ou plutôt au lien qui existe ou qui n'existe pas, vous allez nous le dire, entre ces écritures mérovingiennes et l'écriture de chancellerie. En essayant aussi, et je vous demande de faire encore un petit effort là-dessus, de définir, si vous voulez, la différence des différences de caractère entre cette écriture mérovingienne et puis l'écriture de chancellerie.
Et l'écriture mérovingienne dont je vous parle, c'est uniquement l'écriture courante du bas, c'est tout simplement l'écriture courante du bas empire, écrite avec un peu de majesté, en haussant les lettres, enfin avec un soin et, comment dirais-je, un souci esthétique qui n'existe pas toujours dans les lettres personnelles.
Les rampes des lettres sont extrêmement
allongées. Ça fait partie des choses que je voudrais montrer et que j'ai mises dans le film.
Mais nous y arriverons bien un jour.
Évidemment, très belle.
Oui, n'est-ce pas ? Nous y arriverons bien un jour à faire un film à la télévision.
Alors, il y avait l'écriture, il y avait à la chancellerie impériale romaine une écriture qui était la survivance localisée dans la chancellerie impériale de l'ancienne cursive romaine qui n'avait pas été affectée par la réforme du IIe siècle dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui avait donné les Ptolémées. Si bien que l'écriture de la chancellerie impériale au IVe et au Ve siècle, était une écriture qui était arrivée à un degré d'illisibilité absolument incroyable, qui n'est représentée de nos jours que par un fragment qui est à la Bibliothèque nationale de Paris et un autre qui est à la Bibliothèque de Leyde, en Hollande, n'est-ce pas ? Que ces deux fragments de rescrits du Ve siècle nous donnent une écriture, mais admirable, absolument décorative et absolument illisible. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la déchiffrer, mais très tard, en 1840 seulement. C'est un Allemand, un certain Massmann, qui est le premier, est arrivé à la déchiffrer. Et maintenant, on l'a parfaitement bien déchiffré. Mais cette écriture de chancellerie était réservée à la chancellerie à tel point qu'on a, dans le code théodosien, un rescrit impérial qui interdit à la haute administration de l'employé, parce que elle est uniquement réservée aux actes impériaux, et que si les hauts fonctionnaires se mettent à l'employer, ce sera une pratique génératrice de faux. Le code théodosien le dit en toutes lettres, et qu'il est absolument interdit d'employer l'écriture impériale, qu'on appelle d'ailleurs l'écriture céleste, parce que célestis, c'est le sens d'impérial, de la même manière que les bêtes, les animaux célestes qu'on ramassait dans les forêts d'Afrique du Nord étaient les animaux destinés aux ménageries de l'empereur. Le mot céleste n'a pas d'autre sens que le mot. L'écriture céleste et l'écriture impériale, absolument interdite au commun des mortels, et même interdite aux grands dignitaires de l'Empire. Il n'y a absolument qu'au nom de l'empereur qu'on peut l'employer. Mais alors là, cette écriture céleste est une survivance de l'ancienne cursive romaine, antérieure au IIe siècle, et qui a survécu dans la chancellerie en arrivant à une, suivant exactement un système constant d'ailleurs, mais qui arrive à une déformation, quelque chose d'absolument phénoménal.
Voilà que la boucle est refermée. Vous avez dit survivance de l'ancienne cursive romaine.
Oui, oui.
C'est exactement le contraire de ce que vous disiez dans votre article de les métiers graphiques que nous citions au début de notre entretien, dans lequel vous disiez que justement la minuscule de Caroline et tous les autres alphabets mérovingiens découlaient directement de la capitale romaine. Je vous remercie, monsieur. Thank you.
C'était Les civilisations de l'écriture par Jérôme Peignot, avec la participation de Jean Malon, assistant Albert Morin.